Arrêtez de vous revirer sur un dix scène.
J'ai eu mon 30 sous.
Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
Le plastique a mauvaise réputation par le temps qui court, puis plusieurs Québécois questionnent souvent quand on envoie nos ballots de plastique à travers le monde. Le défi est de taille, qui est celui du recyclage. Et pourtant, il y a une entreprise au Québec qui est devenue un chef de file mondial dans, en matière de récupération du plastique recyclé en vue de le transformer en résine qui sert dans beaucoup de produits. Pour en parler, je reçois le PDG du groupe Lavergne, Jean-Luc Lavergne. Bonjour.
Bonjour, mon cher monsieur.
Votre entreprise est située au cœur d'un quartier industriel d'Anjou depuis 1998. L'usine a une superficie de plus de 160 000 pieds carrés, roule 24 heures par jour. Vous avez des grands clients, BMW, Mercedes, General Motors, Keurig, qui produit évidemment des cafetières, Dawson. Comment avez-vous obtenu la confiance de ces multinationales?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, on est en affaires depuis environ à peu près 30 ans. Mais il y a un tournant majeur qui s'est passé au début des années 2000 et un des clients qui s'est joint à nous, qui lui à ce moment-là avait déjà dans son ADN la façon de regarder qu'est-ce qu'il devait faire avec un produit de fin de vie, c'est le client Hewlett Packard HP. Mm-hmm. Et ce client-là nous a permis à travers leur voix, de démontrer ce qu'on faisait. On était capable de le faire à l'échelle commerciale, dans un environnement industriel, et aussi en faisant en sorte que qu'est-ce qu'on faisait du produit était de qualité et rencontrait aussi la compétition des prix. Donc, c'est un petit peu le début, c'est commencé vers le début des années 2000 avec ce client-là, parce que malgré qu'on avait aussi d'autres clients qui, eux, ont été ou sont aussi des clients chez nous, mais il n'y avait pas la même... pousser de vouloir dire aux gens qu'est-ce qu'ils faisaient avec le produit de fin.
Sans être trop technique, là, expliquez donc aux auditeurs, comment c'est quoi le procédé pour justement obtenir cette résine-là qui va permettre justement d'être dans des produits de consommation? C'est quoi le procédé rapidement?
En fait, nous, c'est plusieurs procédés. Moi, j'aime dire que c'est comme un petit casse-tête de 100 morceaux. S'il manque un morceau, tu ne réussis pas à faire le produit de la qualité que tu veux. Mm-hmm. Mais une des choses principales, pour comparer un peu ce qu'on entend aujourd'hui, nous, c'est en grosse partie, la fonction des contaminations, c'est faite mécaniquement. Après, il y a des ajouts à des additifs chimiques, des choses comme ça qui rentrent dedans. Mais c'est vraiment une façon que nous, on a été les premiers en Amérique du Nord d'avoir eu cette technologie-là dans les années, les fins des années 98, avec une entreprise européenne qui, elle, a fait faillite. Et nous, on a pris ça, on a réussi à rendre ça à terme au début des années 2000.
Donc, vous prenez tout le plastique qui est disponible, que ce soit les bouteilles de plastique, les cartouches d'encre, etc. Et à partir de là, vous faites des résidus?
En fait, nous, on ne fait pas les résidus. On prend les produits de résidus. En fait, notre technologie n'est pas nécessairement axée sur une matière comme telle. Par contre, ce qui est important pour nous, on n'a pas un réacteur qui fabrique la résine vierge dans notre cours. Donc, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est des produits de fin de vie qui sont traités d'une façon quand même acceptable. Donc, c'est un peu la différence avec ce que vous voyez quand vous voyez les choses s'enlever en Asie, des choses comme ça. C'était fait d'une façon qui n'était pas tout à fait de la façon que nous, on aime avoir, recevoir les produits.
En fait, je disais ça au début, là, il y a plusieurs pays d'Asie là, qui ont cessé de recevoir les matières résiduelles qui venaient des pays occidentaux, là, que ce soit la Chine, même l'Inde a peut-être des intentions de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir peut-être penser à construire des usines ailleurs au Québec et dans d'autres parties du monde?
En fait, c'est ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a environ deux ans et demi, la Chine, qui était la poubelle du monde, en fait, là, mm-hmm. d'une façon crue, là, c'est eux qui pouvaient recevoir ça. Et naturellement, tous les pays annexés à ça étaient aussi en partie ça. Et puis pour moi, pour avoir des usines déjà dans le monde, moi aussi, j'étais allé en Chine, puisque la manière que c'était traité, c'était inacceptable pour nous d'avoir ce genre de matière qui pourrait nous approvisionner nos usines. Donc, nous, ce qui est arrivé, puis c'est une coïncidence qui, des fois, il faut travailler fort pour être chanceux, là, mm-hmm. mais c'est une coïncidence que notre usine qu'on a démarrée ici il y a quelques années, mais la nouvelle technologie qu'on vient de rentrer, qui a environ deux ans, rentre parallèlement avec qu'est-ce qu'on voit, avec ce qui a été banni en termes de livrée. Donc, c'est sûr et certain que ça, Pour nous, ça nous amène à bâtir des usines. On en a déjà une, bon, comme vous savez, on en a une à Montréal, on en a une au Vietnam, qu'on continue de grandir. On est en train de partir à une usine en Belgique aussi. Et la dernière qu'on vient de faire, là, c'est en Haïti. Celle-ci est pour, par contre, les plastiques des océans, là, ce que vous entendez, là, les ocean bound plastiques. C'est ce que l'on fait.
En fait, c'est HP qui a investi 2 millions pour élargir ses activités en Haïti?
En fait, continuons notre stratégie et notre partenaire qui est extraordinaire, c'est un partenaire stratégique. HP, en 2016, nous avait demandé de regarder, il était parti du côté social, il voulait donner un aide à des gens dans ce pays-là, puis ils nous ont invités d'aller voir et on a vu ce qui se passait là-bas. Et on était vraiment, moi, c'est moi-même personnellement qui est allé, j'étais vraiment touché. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti un petit recycleur là-bas qui nous permettait de faire une partie initiale, qu'on granulait la matière. Le produit arrivait en Amérique du Nord et nous, on faisait le traitement final. Et puis, HP a publicisé de façon assez importante ce qui se faisait là-bas. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, écoutez, on peut faire beaucoup plus que ça. Fait qu'HP m'a dit, c'est quoi que tu veux dire? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais j'ai dit, si on installe une usine là-bas et puis on fait le traitement directement sur l'île, on va pouvoir améliorer la façon que la collecte se fait, améliorer les gens qui font la collecte aussi, les payer mieux. Et en bout de ligne, on va faire un produit qui va être adéquat et qui va nous servir. Donc, HP m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Mais je dis, moi, si tu investis quelques dollars, moi, je vais faire le restant. Donc, ce qu'on s'est entendu avec HP, c'est qu'ils nous ont, en fait, prêté 2 millions de dollars. Et puis, nous, on a mis environ à peu près la même chose. Et notre façon avec HP, c'est qu'on va les rembourser à même le matériel. Donc, ça démontre qu'un partenaire stratégique comme ça, en anglais, on dit le walk the talk. Là, ils ont vraiment mis l'emphase là-dessus. Et puis, ça nous démontre que c'est important. Et en plus aussi, c'est qu'HP n'est pas, nous force pas à être exclusifs avec eux. Ils sont tout à fait ouverts à ce qu'on peut travailler avec d'autres gens. Nous, c'est une première. L'Haïti, c'est quand même pas le pays le plus facile à faire affaire.
Non.
Mais nous, c'est une première parmi d'autres. On est en train de parler pour en installer aussi une usine similaire à ça dans d'autres pays comme le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, des choses comme ça.
Vous êtes le fondateur du groupe Lavang. D'où vous êtes venu cette idée-là?
En fait, j'ai travaillé auparavant, environ 4 ans avant de partir de mon entreprise, qui s'est officieusement 84, officiellement 86. Je travaillais pour un distributeur de plastique. Donc, c'est un peu la façon que j'ai vu ça. Mais moi, quand j'ai vu ce qui se passait un peu là-dedans, les gens disent souvent qu'on part une entreprise dans son garage. Moi, je l'ai parti dans mon bain. J'ai inventé un système pour faire en sorte que qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait décontaminer les polymères. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'était pas, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Là. Et naturellement, j'ai réussi à m'amener des gens qui sont de très, très bonne qualité en termes de performance intelligente, je peux dire ça. Et puis, ce que je leur avais donné comme idée, ils ont pris ça et ont mis ça à un autre niveau, ce qui est aujourd'hui le groupe Lavang.
Combien vous avez d'employés présentement?
À Montréal, c'est très automatisé, notre usine. À Montréal, on est environ 80. Et puis, la plupart des gens qui sont avec nous, c'est aussi un volet recherche et développement qui est quand même assez important chez nous. Donc, la partie chimique. Et puis, la question opération, ce sont à peu près 80 personnes qui travaillent 24 heures, 7 jours par semaine.
Puis, cette expansion-là à l'étranger, est-ce que ça va évidemment nécessiter du financement? Est-ce que vous avez besoin de la caisse de dépôt, Investissement Québec, ou vous comptez beaucoup sur vos clients privés?
En fait, on ne compte pas sur nos clients privés. Dans le contexte que ce qu'HP a fait, c'est un peu dire, tu sais, « don't wish what you ask for ». Quand je leur ai demandé ça, j'étais surpris même qu'ils sont venus le faire. C'est pas la façon standard de faire les affaires, normalement, mais ça démontre le sérieux. Nous, présentement, on fait tout à même nos fonds propres. On a aussi Investissement Québec qui nous a donné certains coups de main là-dessus. Donc, pour la prochaine croissance qu'on parle présentement, on est quand même assez bien financé, mais on regarde toujours à voir ce qui va se passer. Parce que là, ce que je vous avais dit tout à l'heure, nous, on regarde installer des usines un peu partout à travers le monde. C'est pas comme vous allez voir avec ce qui se passe avec la Convention de Basel, la complexité de travailler, de traverser du matériel d'un pays à un autre va devenir de plus en plus compliqué, pas dire impossible. Fait que nous, on prévoit déjà que ce qu'on fait présentement, ce n'est qu'un début. Et on va être capable de continuer à le faire.
Des projets vers les États-Unis?
En fait, ça fait partie de notre croissance naturelle. Ce que l'on fait présentement, c'est beaucoup de matériaux des États-Unis qui arrivent ici pour nous, pour être traités. Mais on sait aussi qu'à moyen terme, on va devoir le faire. Et puis, ce qui est important aussi, c'est ce que vous dites tout à l'heure, le fameux message qui est très négatif en termes des plastiques. C'est mes compétiteurs, moi, c'est des gens qui fabriquent la matière vierge. Donc, eux, présentement, il y a toutes sortes de projets qui se passent un peu partout dans le monde quand on parle de recyclage, recyclage chimique et tout et tout. Donc, je pense que là, la pression est là. Mm. Mais ça fait longtemps que le plastique recyclé existe depuis que le plastique existe. Mais recycler le plastique, à être capable de refaire et le remettre dans des valorisations qui sont égales à plastique vierge, ça, c'est plus compliqué. Et moi, là, j'ai eu la grande chance d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, un client comme HP. Aujourd'hui, on emboîte le pas avec des clients comme Keurig, Sonos, Dyson, qui sont tous des clients qui sont des grands donneurs d'ordre d'une part, mais qui s'aperçoivent qu'on est capable de le faire d'une façon de qualité et commercialement viable. Ce n'est pas des projets à l'échelle, pas des petits projets laboratoires, là. C'est vraiment à l'échelle commerciale.
Vous savez, on a une industrie de la plasturgie au Québec très implantée en Beauce. Je recevais récemment justement l'association qui représente cette industrie-là, qui produit beaucoup de plastique au Québec et qui disait l'enjeu actuellement, c'est vraiment le recyclage. Comment s'assurer qu'on est capable de recycler ce plastique-là? Et donc, peut-être que l'industrie du plastique et vous pourriez vous parler.
En fait, on se parle, mais faut comprendre que si on regarde le problème n'importe quelle technologie qu'on parle, le problème est plus au niveau de la logistique et de la collection. Mm-hmm. Si on regarde comment est-ce que la collecte sélective au Québec, comment ça se passait dans il y a quelques années, nous, on était un des clients qui pouvait prendre ça. Mais on s'est aperçu très rapidement que c'était pas la façon adéquate de pouvoir faire cette chose, la collecte. Là, comme vous le savez peut-être, là, ils sont en train de recommencer à revoir la façon, oui. Élargir la consigne, revoir la façon. Oui. Et là, même, il y a des grands donneurs d'ordre comme Keurig, Transcontinental, Danone, qui commencent à s'impliquer là-dedans. Enfin, là, on est commencé à rembarquer. Et c'est sûr et certain que si on est capable de faire des choses, ça va nous faire plaisir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous, on n'a pas un réacteur dans notre cour. Là. Nous, la façon de pouvoir faire les affaires, c'est d'avoir des matières de qualité de fin de vie qu'on puisse traiter. Donc, c'est effectivement notre but à moyen et long terme de pouvoir se procurer de la matière localement.
Donc, merci, M. Lavergne, de nous avoir éclairé, de nous avoir parlé de votre groupe, Lavergne, qui est vraiment dans l'innovation au niveau du recyclage plastique. Donc, c'était Jean-Luc Lavergne, PDG du groupe Lavergne. Merci beaucoup.